Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Bonjour à tous, merci d'écouter La Clé des Ondes, c'est le plat de résistance qui commence, on est ensemble comme tous les jours jusqu'à 13h. Aujourd'hui on va s'intéresser au Festival des Fiertés à Bordeaux qui est en cours depuis le début du mois de mai, qui se poursuit jusque fin juin et qui passera notamment par le moment important de la Pride le 1er juin. Prochain, on aura également les clés des libertés qui nous seront données par Amnesty International qui alerte contre l'arrivée de la vidéosurveillance algorithmique à l'occasion des JO en France. Et puis, comme vous l'entendez, il est midi passé de quelques secondes maintenant, il n'y a pas de journal de RFI, Radio France Internationale, dont les salariés sont en grève, comme ceux d'une bonne partie de l'audiovisuel public aujourd'hui. On parlera des raisons de cette grève. Aujourd'hui, à 13h, il y aura Acétone, l'actu décapé par les chômeurs et les précaires qui poursuivent leur revue des candidatures de gauche aux élections européennes, avec notamment aujourd'hui la rediffusion donc de l'émission d'hier, où étaient reçues La France Insoumise et Révolution Permanente. Et comme il n'y a pas de journal de RFI, on va tout de suite enchaîner avec notre journal et commencer par un événement marquant aujourd'hui, ce matin, à Bordeaux. C'est une première, la première fois que Bordeaux commémore le 23 mai, la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. C'est en tout cas ce que note le fondateur et directeur de l'association Mémoire et Partage, Carfa Diallo, également élu régional écologiste. Il revient à ce propos sur les récentes avancées qu'il y a eu à Bordeaux. On l'écoute.
En 2022, nous avons pris la responsabilité d'une mission de préfiguration d'un lieu dédié aux mémoires des esclavages de la traite des Noirs ici à Bordeaux, ici en Nouvelle-Aquitaine. Nul autre port que Bordeaux, nulle autre ville que Bordeaux en France ne peut nier cette responsabilité qui est la sienne. Nous sommes le port, nous sommes la ville qui a le plus profité de l'esclavage colonial occidental ici en France. Et cette responsabilité, nous l'avons prise avec vous puisque nous avons mis en place une consultation citoyenne, des outils de démocratie participative totalement inédits sur un tel projet qui ont abouti effectivement à ce qu'un rapport et été remis aux autorités, à la ville de Bordeaux, à la région Nouvelle-Aquitaine, au département de la Gironde ainsi qu'à la métropole. Vous savez également que le port de Bordeaux, pour la première fois, nous propose un espace sur les bassins à flots qui pourrait abriter cette maison esclavage et résistance. Donc ce 23 mai est pour nous d'abord l'occasion de saluer l'annonce faite par la ville de Bordeaux de mettre en place avec un calendrier donc ce projet de maison esclavage et résistance avec un diagnostic partagé, mais aussi pour nous l'occasion de dire qu'il ne faut pas se tromper. Ce travail de mémoire, il est d'abord un travail d'éducation, un travail de compréhension des conditions particulières de la constitution véritablement de la mondialisation, c'est-à-dire cette rencontre violente entre les peuples et les civilisations, ces tentatives d'effacement de culture, mais aussi les résistances qui ont été portées. Donc c'est un travail qui est loin de la diabolisation, qui est loin de la victimisation. C'est un travail de mémoire, d'éducation et de transformation. Et c'est en cela qu'il faut être vigilant.
Voilà, Carfa Diallo de l'association Mémoire et Partage. L'autre événement dont vous entendrez bien plus parler aujourd'hui, c'est la flamme olympique qui passe dans le département. Ça part un peu dans tous les sens puisque la flamme était ce matin à Saint-Émilion, elle s'est déplacée jusqu'au Bouscat, puis Libourne, puis la Cité du Vin, Lormont ce matin, en début d'après-midi, retour à Saint-Émilion, puis Mérignac-Pessac entre 13h et 15h30, retour à Libourne et enfin un défilé depuis Senon d'où elle partira vers 17h. Pour finir la journée au miroir d'eau vers 19h30. Signalons les perturbations que cela engendre avec l'interdiction stricte de stationner dans les rues concernées, des interruptions de toutes les lignes de tram en ce moment et jusque vers 14h30. Le tram A entre Arlac et le Hayan, les trams B, C et D seront concernés sur les secteurs autour du centre-ville de 17h10 à 19h10. Et puis il y a un événement de la flamme où le public n'est pas convié. C'est un passage, une privatisation par LVMH à partir de 13h au château Cheval Blanc, donc de Saint-Émilion, chez Bernard Arnault, le géant du luxe, champion des dividendes et grand financeur des Jeux Olympiques, qui est propriétaire du lieu. LVMH, c'est aussi plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux et des dizaines de milliers de destructions d'emplois par les rachats et délocalisations successifs qui ont été nécessaires pour faire construire cette richesse. Et ça mérite bien une médaille. On reparlera, nous, des JO à la fin de notre émission dans les Clés des Libertés avec Amnesty International qui alerte sur la vidéosurveillance mise en place à l'occasion des JO. La flamme olympique, elle traverse notre département aujourd'hui sous la pluie et les nappes phréatiques s'en félicitent puisque 65% d'entre elles sont au-dessus des niveaux habituels en France. Une situation complètement inverse à l'année dernière, note le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Mais ça reste la cata dans les Pyrénées-Orientales et la Corse où il n'a pas beaucoup plu. Enfin, aujourd'hui, c'est aussi un jour de grève à Radio France, à France Télévisions, à France Média Monde, le groupe qui regroupe RFI et France 24. France Média Monde et également à l'INA, grève contre une proposition de loi qui vise à fusionner ces quatre groupes pour un objectif affiché de pouvoir ainsi mieux rivaliser face à la concurrence aux groupes privés, notamment aux réseaux sociaux, aux groupes internationaux. On a voulu demander des précisions sur cette question aux salariés concernés. On va écouter Julien Collin, qui est technicien à France Bleu Gironde et délégué syndical à Sud Radio France. On lui a demandé à Julien Collin pourquoi est-ce que ce projet de fusion, il vous fait peur ?
Premier élément pour nous, c'est l'attachement qu'on a à cette maison. Radio France, pour nous, est un groupe très fort déjà en l'état et très clairement, on tient à notre identité qui est très important pour nous. On ne croit pas une seconde que l'idée de pouvoir être regroupé nous permettra d'être plus fort parce que c'est pas du tout un argument qui est étayé même par la ministre, hein, c'est un élément de langage. L'idée d'une BBC à la française. Alors, il y a énormément de différences avec la BBC. Déjà, en termes de financement, on est très très loin du montant payé d'ailleurs par les citoyens britanniques qui ont une redevance, elle, qui est très élevée. Et puis, voilà, le fait est que la radio, la télévision, c'est quand même des médias très différents. Et je vois pas pourquoi le rapprochement nous rendrait plus fort, quoi. Ni en termes de financement, parce que pour l'instant, cette question-là n'est absolument pas assurée, ni en termes d'activité, hein, en termes d'économie d'échelle, on n'a aucune chance de voir de nous voir renforcés par la présence à nos côtés de la télévision. Voilà, pour nous, c'est un argument en fait qui est un argument de principe pour légitimer ce projet de loi qui, pour nous, n'a pour objet que alors de faire une économie d'échelle, très certainement à terme, hein, parce qu'on sait que à court terme ça nous coûtera cher, mais aussi pour avoir une emprise bien plus forte en termes de pression politique et d'éditorial, hein. C'est évident qu'en ayant un PDG commun, les coups de fil de pression de la part du gouvernement ou même des lobbies privés d'ailleurs seraient beaucoup plus efficaces. Donc voilà, cet argument d'être plus fort, on n'y croit pas une seconde, mais honnêtement, hein, je crois ni les parlementaires ni même la ministre n'y croit réellement. C'est vraiment un argument, un élément de langage, point.
D'autant plus que sur ces deux points, alors les pressions politiques, on a pu le voir très dernièrement avec tout ce qui se passe du côté de Radio France, mais aussi pour cette question de la mutualisation et de la réduction des moyens, c'est un peu ce qui se passe déjà entre les différentes chaînes de Radio France. C'est ce qui se passe aussi localement avec les passerelles qui sont tentées, qui sont de plus en plus demandées entre France Bleu et France 3 Région. Julien ?
Là encore, ces rapprochements étaient des injonctions gouvernementales. Donc, nos directions ont fait en sorte, en effet, qu'on se rapproche entre France Bleu et France 3. C'est pas un échec total, mais c'est pas une franche réussite non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pôles, il y a des endroits à Bordeaux où on a tenté des rapprochements. Pour l'instant, ça se cantonne à la possibilité pour vision de diffuser des matinales filmées qui sont en fait simplement des caméras posées dans un studio de radio. On a ce qui n'est pas non plus une franche réussite qui est une application mobile numérique commune qui ne fait pour l'instant que regrouper en fait les articles de France Bleu d'un côté, de France 3 de l'autre sans réelle cohérence éditorial. Voilà, pour l'instant, ces tentatives... alors, je vais peut-être vous donner un scoop, mais il y a aussi une tentative de rapprochement immobilière. Actuellement, c'est en cours d'étude à Bordeaux, en particulier. Mais pour l'instant, voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et on n'y voit aucun gain. On est dans des fonctionnements différents. On est sur des modalités différentes, même en termes éditoriales. Voilà. Donc, on a répondu à ces injonctions du mieux qu'on a pu. Manifestement, ça suffit pas. Même la ministre elle-même a dit que c'était pas satisfaisant et que il fallait aller beaucoup plus loin. C'est pas une réussite sur laquelle on peut s'appuyer pour considérer qu'il est nécessaire de continuer à se rapprocher. Je crois pas une seconde.
Il y avait donc un appel à la grève pour aujourd'hui, jeudi 23 et demain vendredi 24, puisque c'était aujourd'hui et demain ou demain que le projet de loi de fusion devait être étudié à l'Assemblée nationale. Alors c'est pas sûr que ce soit pour des questions de calendrier, d'agenda, mais ça fait quand même tout de même un premier test pour vous. Comment on dit que la mobilisation est assez suivie aujourd'hui? Comment vous le sentez autour de vous là?
On voit très clairement une mobilisation quasiment inédite à Radio France. Hein. Aujourd'hui, vous avez certainement pu entendre, les auditeurs ont pu entendre, ceux qui sont n'écoutent pas que la clé des ondes ont pu entendre que France Inter, France Info, France Culture, France Musique, d'autres étaient en grève. France Bleu Gironde l'était ce matin. Les chiffres sont difficiles à donner, mais on a au moins les deux tiers des France Bleu qui ont été grévistes sur la matinale, ça se poursuit. On a aussi des modalités de grève qui sont un petit peu particulières. L'objectif était pour nous de mobiliser un maximum de monde. Il y a des gens qui peuvent faire grève une heure et qui sont considérés comme grévistes, et c'est très important pour nous. On ne dispose pas à cet instant, au moment où on parle, des chiffres précis de la mobilisation, mais pour moi, c'est totalement inédit et c'est une mobilisation absolument colossale. On a pu, il se trouve que je suis à Paris pour le rassemblement qui est prévu devant le ministère de la Culture. On a vu en Assemblée Générale hier à Paris qu'il y avait énormément de salariés qui étaient mobilisés. Même des membres de la direction. La direction nous pousse à être grévistes et à manifester la désapprobation des salariés pour bien montrer aux parlementaires et au gouvernement l'opposition très importante des salariés de l'audiovisuel public. Du côté de France Télévisions, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Hein. Il y a eu des programmes dégradés, ça va continuer tout au long de la journée. Donc, très clairement, l'immense majorité, voire plus que ça, des salariés de l'audiovisuel public sont opposés à cette fusion. On a nos camarades de l'INA qui sont pas très loin de nous, à la Maison de la Radio, certains, et qui sont venus nous voir et qui disent à quel point aussi ils sont inquiets pour leur avenir et pour une réforme qui n'est absolument pas maîtrisée sur son contenu. Il y a beaucoup de questions qui ne trouvent absolument pas de réponse sur la manière dont nos sociétés pourraient fusionner. Et je le dis par rapport à l'INA, il y a des questionnements par rapport à France Média Monde, France 24 et autres, et RFI, qui sont des questions extrêmement importantes et pour lesquelles le gouvernement n'a pas de réponse. Donc on a le sentiment d'une réforme qui est menée au pas de charge par la ministre Dati. Sans concertation véritablement d'ailleurs avec les parlementaires, hein, peut-être qu'ils manifesteront, et on l'espère, leur désapprobation devant une réforme qui est mal ficelée, qui n'est pas terminée et qui va poser d'extraordinaires de problèmes, et des problèmes sur le plan, pas uniquement des conditions de travail des salariés, hein, même si ça m'occupe beaucoup, mais sur le plan de la démocratie et de la pluraliste et du pluralisme dans la société française.
Justement, alors peut-être pour imaginer comment est-ce que vous ou nous collectivement pourrait faire reculer ce projet de fusion. Il y a ces 2 jours de grève. C'est quoi la suite et est-ce que ou comment cette bataille pour un service public de l'information, elle peut fédérer non seulement les professionnels que vous êtes, mais aussi le public, les auditeuristes, les spectateuristes. On l'a vu peut-être récemment avec ce qui s'est passé à France Inter, les annonces d'émissions de suppression, où il y a eu quand même une mobilisation aussi sur les réseaux sociaux, etc., des auditeurs, auditrices de l'émission de Charline Van Ecker avec Guillaume Meurice, aussi de l'émission La Terre au Carré. Avec une mobilisation qui a, j'ai l'impression, permis de permettre le maintien d'une partie de l'émission qui allait être sucrée. Enfin bon, tout ça est encore en projet, mais voilà, quel enjeu peut-être il y a derrière ce truc-là de l'alliance entre les professionnels et le public, Julien?
C'est vrai que là, on est sur une très vaste question. Il se trouve que ces actualités se percutent. Mais en effet, moi, je pense qu'on peut trouver une ligne directrice qui est la question de l'indépendance face au pouvoir. Nous, on a le sentiment, en effet, ensuite très près l'affaire Guillaume Meurice, on a le sentiment que la direction de Radio France ne fait que répondre, là encore, aux injonctions gouvernementales de faire taire cette voix dissonante. C'est une personne qui est ciblée par le gouvernement comme étant une opposante et quelqu'un qu'on veut faire taire. Radio France y répond de la manière la plus brutale possible en traînant dans un processus disciplinaire un humoriste à qui on ne peut reprocher que d'avoir fait son métier, c'est-à-dire d'avoir fait rire. Mais là, on a la patte d'un gouvernement qui ne supporte plus la critique et puis aussi, évidemment, le lobbying de... du privé qui veut faire taire ce qui apparaît aujourd'hui comme étant des voix divergentes et voilà, faire taire des voix de gauche tout simplement, hein, ça je pense qu'on peut le dire. Donc on est dans un mouvement global et la fusion de l'audiovisuel pour nous va en effet dans le même sens. Alors comment, pour répondre à ta question, comment essayer d'associer au maximum les citoyens français, hein, globalement, qui veulent avoir la liberté d'écouter un service public pluriel et de qualité, et des groupes privés s'ils le souhaitent. C'est une vraie question. On a eu énormément de courriers qui ont été adressés à la direction de Radio France, à la médiatrice de Radio France. C'est toujours une solution d'envoyer des courriers pour exprimer le désaccord et la volonté de préserver cette parole libre sur le service public audiovisuel. Après, le débat, les conséquences sur cette réforme de l'audiovisuel, qui va l'adapter, c'est bien les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs. Donc moi j'encouragerais tous les auditeurs qui souhaitent affirmer leur volonté de préserver un audiovisuel public de qualité, de s'adresser directement à leurs députés, à leurs sénateurs de proximité et leur dire leur attachement.
Merci beaucoup Julien Collin.
Avec plaisir.
Voilà Julien Collin, donc, qui est technicien à France Bleu Gironde et délégué syndical à Sud Radio France. On rappelle cette grève aujourd'hui à France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, qui se poursuivra demain et qui devrait avoir des suites pour arriver à faire reculer le gouvernement et le ministère de la Culture sur ce projet de loi. On en reparlera bien sûr sur la clé des ondes tant qu'il le faudra. Midi 17, vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes et on s'intéresse maintenant au Festival des Fiertés. Festival des Fiertés en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux qui a commencé le 4 mai dernier et qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Il est organisé par le Girophare et ses partenaires avec notamment l'événement phare habituel qui est la Pride qui aura lieu le 1er juin prochain. On va y revenir avec nos deux invités aujourd'hui en studio. Bonjour à vous, Kurt et André.
Bonjour.
Bonjour.
Kurt, tu es salarié du Girophare, le centre pour les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, non-binaires et leurs alliés de Bordeaux. Et puis, il faut signaler quand même que tu animes aussi l'émission La MIF sur la clé des ondes une fois par mois à peu près.
Exactement.
Et dont la prochaine sera lundi prochain.
Oui, d'ailleurs. Retrouvez-nous.
Et André, toi, tu fais partie de l'association ANCRE, A-N-C-R-E-S au pluriel, association d'entraide par et pour les personnes trans. Ça veut dire quoi, ANCRE, André ?
ANCRE, c'est l'acronyme de ADELF, non cisgenre, rencontre, entraide et soutien. Et pour celles et ceux pour qui ça serait quand même un peu obscur, ADELF, c'est un terme épicène, donc ni masculin ni féminin, qui désigne les frères et sœurs. Et cisgenre, c'est l'inverse des personnes trans, donc les personnes qui se retrouvent dans leur genre de naissance.
Très bien, merci pour ces précisions. Je disais, ce Festival des Fiertés, il a déjà commencé donc au début du mois de mai. Et dans mon souvenir, il était un peu plus court. Enfin, je ne sais plus trop comment c'était les autres, mais c'était moins étendu dans le temps. Peut-être pourquoi ça a été allongé comme ça sur toute cette période de deux mois, Kurt ?
Parce qu'on essaye de faire une année des Fiertés ensuite. Donc, mois par mois, on en rajoute. Non, c'est parce que... Donc, en général, on ouvre le Festival des Fiertés avec le Village des Fiertés, qui est un village associatif où on se retrouve, Placette Dominique. Et ça tourne plutôt autour du 17 mai. 17 mai, qui est l'Idée Out, journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies.
Qui a eu lieu vendredi dernier.
C'est ça. Et le truc avec mai cette année, c'est qu'on a eu beaucoup de ponts. Et que dans l'idée de fédérer, on s'est dit qu'on allait le mettre le 4 mai. Plutôt que le dernier week-end avant la Pride aussi, pour pas trop charger. Donc voilà pourquoi c'est un super long festival.
Donc ça a commencé par ce Village des Fiertés. Il y a eu d'autres choses. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est déjà passé depuis trois semaines, André ?
Ouais, donc on a ouvert le festival avec le Village des Fiertés. Et en fait, cette année, la particularité, c'est quand même que ce mois des Fiertés coïncide avec une actualité politique très vive pour nous, puisqu'on a eu coup sur coup en avril la sortie d'un livre ouvertement transphobe, de deux propositions de loi, une par les Républicains et une par le Rassemblement National, pour interdire toute transition, qu'elle soit sociale ou médicale, pour les mineurs trans. Et ces propositions de loi s'appuient aussi sur un rapport sénatorial des Républicains. Et donc de ces actualités ont découlé une mobilisation qu'on peut qualifier d'assez historique dans les luttes trans, puisque le 5 mai, il y a eu une coordination nationale pour organiser des rassemblements dans une cinquantaine de villes en France, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Et à Bordeaux, on a continué cette mobilisation en utilisant la date, justement, comme on le disait, Kurt, du 17 mai, de la Journée internationale des luttes contre LGBTI-phobie, pour organiser un second rassemblement. Et ça a été des moments assez forts, qu'on rassemblait plusieurs centaines de personnes à chaque fois sur Bordeaux, et qui ont aussi été des lieux d'expression publique, où des personnes ont pu prendre la parole. Donc ça a été des moments de communauté forts pour nous.
Ça veut dire que pour vous, ces attaques-là, cette médiatisation quand même d'un discours, en l'occurrence transphobe, c'est plutôt des choses qui, in fine, permettent de se rapprocher, de faire lien, de faire communauté, comme tu disais, Kurt ?
On le voit que c'est pas nécessaire pour nous de faire communauté autour de ce genre d'actualité, mais on le voit, c'est vrai. Et c'est ce qui s'était déjà passé au moment des attaques de 2022, où justement...
Attaque contre la Pride,
donc attaque par des fascistes. Et en fait, juste après, il y avait eu l'attaque de Saint-Michel, donc toujours par les mêmes fascistes. Et en fait, pareil, en termes interassociatifs, ça nous avait beaucoup soudés, donc autour du collectif Antifara. Et là, ça nous a...
Antifara pour antifasciste, antiraciste.
Exactement. Et là, ça nous a ressoudés autour donc, du collectif Riposte Trans et Féministe, donc en réaction à cette actualité. Mais on n'a pas besoin de ce genre d'actu, vraiment.
André, tu voulais ajouter un mot ?
Donc pareil, la même chose.
Et bah justement, je voulais vous demander, c'est vrai qu'on a un peu ces deux sentiments simultanés et opposés que résumait bien Tristan, donc qui est aussi salarié au Girophare, dans une petite interview, qui disait le Girophare, comme d'autres associations, est de plus en plus sollicité pour intervenir dans des assos, des collectivités, des entreprises. Et en même temps, et ben, les agressions homophobes, transphobes, LGBTQIAP+phobes en général, elles sont en augmentation. Comment vous percevez, vous, ces deux phénomènes-là qui se passent en même temps ? Est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de la société dans laquelle on est et de ses évolutions, Kurt ?
C'est un retour de bâton. On sait que quand on visibilise un sujet, forcément, il y a une grande partie de l'opinion. Donc, l'opinion publique, qui est plutôt silencieuse, mais qui est d'accord, et justement, qui cherche à se renseigner, à approfondir, parce que souvent... apprendre, comprendre, c'est accéder à aimer, apprécier ou au moins ne pas détester ou ne pas haïr. Et du coup, c'est pour ça qu'on intervient de plus en plus, parce que si on comprend à quel point ça joue dans la santé mentale des personnes LGBT, que leur entourage, enfin d'avoir des alliés, donc c'est essentiel que l'information soit diffusée. Mais en parallèle, l'idée que il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de l'information. On voit que souvent les techniques, justement, c'est de retirer l'information pour pouvoir mentir autour et de faire de la désinformation. Et du coup, ça leur plaît pas qu'on puisse créer quoi que ce soit de pédagogique. Et en plus de ça, la violence. Enfin, il y a quand même dans l'espace médiatique des propos de plus en plus violents. Notamment sur certaines chaînes et par certains politiques. Et en fait, vu que c'est complètement décomplexé, que ça a pignon sur rue, bah, les individus aussi qui se disent bah, finalement, ouais, ça tombe sous le coup de la loi, la transphobie, les LGBTI-phobies en général, mais est-ce que c'est vraiment appliqué ? Et puis, je suis peut-être dans mon bon droit. Je pense que pour LE, c'est presque de la désobéissance civile. Donc, c'est se dire si on se réapproprie des concepts. Mais du coup, il y a ce besoin et il y a aussi vraiment une organisation, un noyau dur. Donc, ils sont peu, mais par contre, ils se radicalisent, ils sont de plus en plus violents. Voilà, je pense que...
Mais ils peuvent apparaître, donner l'impression d'être nombreux. C'est là où peut-être il faut faire attention à ne pas se méprendre aussi sur ce qu'ils représentent. André ?
Ouais, c'est ça. Ils veulent. Enfin voilà, on constate qu'il y a une présence très importante des discours transphobes dans les médias, notamment des deux autrices du livre Transmania. Et ouais, ça, je voulais appuyer ce que disait Kurt sur le fait que c'est la présence de ces discours transphobes complètement décomplexés qui derrière légitime le fait que les débats porte sur nos existences mêmes en réalité et que ça soit ça qui soit questionné. Nous c'est vraiment ça qu'on constate et le travail de désinformation dont Kurt parlait, il est présent jusque dans les rapports sénatoriaux. Par exemple, ce rapport qui porte principalement sur les transitions médicales des mineurs, sur quand on va à la partie source chiffrée, le chapitre s'ouvre sur le fait qu'il n'existe pas de chiffres officiels et sûrs sur le nombre de mineurs en France qui ont accès à des transitions médicales. Pour après, dans le paragraphe suivant, nous dire que c'est un problème de société, que c'est une épidémie, que on transgenrise les mineurs, que c'est un problème global. Alors même que les auteurs autrices du rapport admettent qu'il n'y a pas de chiffres. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de chiffres, c'est qu'il y a très peu de transitions médicales en France et que c'est en réalité plus un problème dans ce sens-là.
Ok. Sur la désinformation dont vous parliez, c'est je ne sais pas si on peut dire, c'est quoi les principaux trucs, alors tu en as mentionné un, mais sur lesquels il y a de la désinformation, et surtout comment est-ce qu'on peut se réinformer, en tout cas s'informer correctement sur cette situation. J'imagine que Ancre, c'est une partie de votre taf, le Girophare aussi, sur tout ça. Kurt ?
Moi, je pense que de notre côté, c'est l'image, ce qu'on nous fait porter. Donc déjà, il y a une hypersexualisation de toutes les personnes LGBTQIAP+. Et l'idée que on serait moteur de cette hypersexualisation, que c'est notre but, hypersexualiser la société, les enfants, les gens, tout ce qui s'y passe pour que les bonnes mœurs ne soient pas respectées. Donc il y a cette première étape d'hypersexualisation, donc oui, qui questionne. Et l'idée aussi qu'on ait un lobby et que notre but dans la vie, c'est non pas de se faire respecter pour qui on est ou qui on aime, mais de convaincre tout le monde que notre modèle de société est le bon. En fait, c'est une rhétorique en miroir, vu que c'est ce qu'elles utilisent. Forcément, c'est ce qu'on applique sur nous, notre volonté. Alors que notre volonté, c'est que les gens comprennent.
Merci à vous deux, André de l'Assaut Encre et Kurt du Girophare, d'être venus nous présenter tout ça. Et à très vite, du coup, dans les rues et les salles de Bordeaux.
Exactement. Merci, Baptiste.
Vous écoutez La Clé des Ondes sur le 90.10 FM et sur la